OK. Merci beaucoup, Fatiha. Et juste très rapidement, je vais présenter le numéro de Hawa, qui est numéro 15, premier numéro qui a été publié l'année dernière, en 2017. Alors, oui, merci. L'historique, Fatiha a déjà dit que c'est un héritage de deux panels que nous avions organisés à l'initiative de Fatiha et moi à Londres. Ensuite, on a commencé à travailler les questions, on a vu qu'on avait quelque chose d'intéressant. Ce n'était pas forcément que sur le monde, enfin pour nous, que sur le monde musulman, mais c'était des questionnements concernant le genre et les droits de propriété, les droits accès aux propriétés, accès à l'usage, à l'usufruit de propriété. Et on a commencé à travailler davantage sur les questions. Et très rapidement, on avait assez pour un deuxième numéro. Enfin, à la fois, on a vu tout de suite qu'on avait assez pour deux numéros. Et donc, on a proposé de publier des articles qui concernent surtout le monde, enfin le droit musulman, de façon très large, que ce soit d'un mefeb ou un autre, sunnite et chiite, mais aussi le droit à l'époque coloniale, postcoloniale, vraiment de façon très large. Et nous avions proposé ceci à la revue Hawa, donc vous le voyez derrière moi, les articles qui sont proposés. Il y en avait d'autres, il y en avait d'autres aussi. On avait certains articles qui n'ont pas pu être publiés dans ces deux numéros-là, donc on va peut-être continuer, on verra. Mais la façon qui était intéressante pour nous, qui travaille sur le monde, je veux dire le monde musulman, mais du point de vue de droit et de droit théorique, jurisprudence ou de droit théorique, et ensuite pratique, les documents qui passent devant les tribunaux variés, nous avaient mis dans une autre lumière vis-à-vis du comparatisme qu'on a fait avec le numéro de cahier du genre qui était là tout à l'heure. Et en fait, dans ce numéro-là, Hawa, il y a l'article tout à fait à la fin qui est sur la France, mais on avait décidé de le mettre ici dans la revue de Hawa, dans ce numéro, parce que, en réalité, si vous avez le numéro, vous allez le lire, en réalité, pas mal de questions qui nous concernent en tant que chercheurs qui travaillent sur le monde, ou le droit, je vais dire plutôt le droit musulman, la jurisprudence musulmane, ce sont des questions soulevées également en France actuelle. Parce que, comme nous allons voir cet après-midi, on l'a déjà vu ce matin, mais comme nous allons voir, très souvent, en fait, la jurisprudence ou le droit qui donne un encadrement de protection, ou je ne veux pas dire égalité, mais qui donne certains droits qui ne sont pas forcément traduits sur le terrain. Et c'est souvent le droit qui est très souvent plus progressiste, on peut dire, plus progressiste ou plus progressive que des pratiques. C'est souvent on voit ça dans notre documentation, mais pas seulement. Des fois, c'est l'inverse. Donc, ce sont des questions complexes et tout à fait intersectorielles qui sont plus, je l'ai dit ce matin, qui sont plus liées à la situation socio-économique des gens que des questions de genre, en réalité. Je ne vais pas lister les articles ici. Tout le monde est là, sauf la dernière personne qui n'a pas pu venir, Lisa Bosenbrock. Elle n'a pas pu venir, mais si vous obtenez c'est gratuit, vous obtenez un numéro, donc vous pouvez lire également son article. Donc nous avons commencé dans quelques minutes, je vais juste brièvement parler de notre introduction à ce numéro-là. Nous avons essayé donc d'ancrer nos études dans ce numéro dans le monde, le monde qui est spécifique à chaque étude, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une perspective comparatiste, égard à notre travail à Londres avec Fatiha et aussi avec le séminaire où il était beaucoup question de droit de propriété, pas seulement de manière genrée, mais finalement, quand on écoute presque chaque présentation, il y a des questions de genre dedans. Les séances du séminaire WACF, l'École des hautes études, entre 2010 et 2016, il y a presque toujours des questions de genre, même si ce n'était pas annoncé dans le titre, même si la personne parfois elle-même ne s'était pas rendue compte. Nous, on lui a dit qu'il y a du genre dedans. Et je donne l'exemple d'une doctorante tunisienne, franco-tunisienne, qui vient de soutenir sa thèse le 13 février, plus précisément, à Aix-en-Provence. Deux membres de jury sont ici. Il s'agit de Mounir Abdelharis Tarchoun. Elle a commencé à travailler depuis quelques années sur Sfax. Mais c'était une étude urbaine, c'était une étude topographique, c'était une étude qui n'avait, selon elle, au départ, du genre, enfin, même pas, c'était pas un questionnement qui était posé. Mais au fur et à mesure, elle se rend compte qu'il y a des questionnements qu'il faut poser lorsqu'elle regarde une fondation qui a été créée par un homme ou par une femme. Elle avait un certain nombre de fondations créées par des femmes, ou bien que ce sont des femmes qui louent des propriétés qui appartiennent à ces fondations, etc. Et donc, c'est parfois un cheminement intellectuel, scientifique, personnel, où la personne se rend compte, soit un jeune chercheur, soit quelqu'un qui a déjà travaillé 30 ans sur un sujet, se rend compte que tout est genré, finalement. C'est une question... c'est une catégorie de questionnement, mais c'est vraiment au-delà parce que ça fait partie de chaque société d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça ce que nous avions dit, Fatira et moi, dans cette introduction à ce revue, à ce numéro. Je vais passer à ma communication parce que je ne vais pas perdre du temps. Je peux dire encore des choses, mais
tout à l'heure. Genre jurisprudence hanéfite et droit de propriété des Wafs de Damas ottomane. Ça ?
Oui, c'est ça. Ouais. Alors, fermez l'angle actif, c'est ça.
Parce que là,
je ne veux pas ça. Je veux ça. C'est juste quelques diapos qui vont me servir comme support. Oui. Alors, j'ai intitulé cette communication « Genre et droit de propriété »,« Genre, jurisprudence, anafite » et « Droit de propriété de WACF », donc de Damas ottoman, parce que c'est mon terrain de travail. J'en ai encore plein de documents à exploiter, malgré la situation en Syrie actuelle. J'ai encore plein de documents qui restent à être exploités, parce qu'il y avait tellement de documents qui passaient devant le tribunal. Les tribunaux, il y en avait sept tribunaux à Damas, à l'époque ottomane. C'est absolument énorme. D'habitude, il y a 1, 2 tribunaux. Là, il y en avait 7 pour des quartiers différents à Damas. Ici, je prendrai une approche qui a trois supports ou trois domaines d'interrogation. Mes documents, qui sont des documents qui sont concernés par les fondations WACF, soit les WACFIA, soit les chartes de fondation. Mais c'est surtout ce que je trouve le plus intéressant pour moi, ce sont des documents qui concernent des opérations des WACF déjà ou des fondations déjà créées. C'est-à-dire qui les loue, qui loue les propriétés. On sait déjà qui a créé, c'est déjà créé. Mais qui loue les propriétés? Est-ce que c'est femme ou homme? Dans quelles circonstances? Est-ce que assez souvent, on a des marqueurs identitaires genrés. Bien sûr, on sait si c'est une femme ou un homme. C'est déjà très important comme questionnement. Mais on sait aussi, est-ce que la personne vient d'un certain niveau dans la société par le fait qu'il y a un titre ou pas, un titre après son nom. Est-ce que c'est madame, un prénom féminin avec un qualificatif comme Hanum après le nom, qui veut dire qu'il y a un certain standing certain niveau dans la société. S'il n'y a pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, tout simplement, on n'a pas noté ça dans le document, mais on peut supposer que c'est une femme ordinaire. Je fais comme ça, c'est très américain, mais une femme ordinaire. Et c'est ça ce qui m'intéresse. Ce n'est pas vraiment l'élite qui a joué un rôle, c'est absolument sûr. Mais en ce qui concerne les fondations, ce sont des gens ordinaires qui m'intéressent. Parce que nous voyons les profondeurs de la société, on voit des gens lambda, vraiment, des femmes et des hommes, qui soient loups des propriétés qui appartiennent au WAF, fonciers, des biens fonciers, des vergers, des potagers, tout petits ou parfois très grands, mais aussi des propriétés immobilières, des bâtiments également. Ça peut être une toute petite pièce, une petite chambre qu'on me donne à la fondation. Et parfois, c'est la seule propriété qui appartient à cette fondation. Ou bien, on peut avoir des centaines, voire des villages entiers. C'est ça ce qui m'intéresse. Les gens ordinaires qui sont impliqués, tout le monde, à un moment ou d'autre, presque, est impliqué dans le système de WAQF. Donc, ce sont des locataires, mais aussi ce sont des gens qui travaillent, si on rentre dans les questions de foncier, ce sont des gens qui travaillent sur les terres agricoles. Nous avons très souvent, pas toujours, mais nous avons très souvent leur nom dans la documentation. Parce qu'on peut avoir deux ou trois niveaux de locataires, parce que, il y a, d'où ma question tout à l'heure, il y a des manières de sous-location. Donc, ça peut être vraiment complexe qu'on essaye. Tout à l'heure, on va parler de la banque de données que nous sommes en train de constituer. Des fois, donc, c'est vraiment très, très compliqué. Pour une seule propriété, on peut avoir deux ou trois niveaux, le locataire, après la sous-location, et celui qui va travailler, actuellement, être là pour travailler, élaborer la terre. Donc, ces questions-là m'intéressent beaucoup. Également, tout ceci est encadré par le droit, je vais le dire à la fin. Également, ce qui est très important et qui montre comment fonctionne, au moins une partie, la société, ce sont des bénéficiaires. Les revenus qui sont générés par souvent la location quand il s'agit d'un bâtiment, un bien immobilier en WAQF. Donc, c'est rentabilisé par les locations. Mais ces revenus vont aller où? Et ça, c'est intéressant aussi parce que les bénéficiaires, est-ce que les bénéficiaires sont de la famille du fondateur ou de la fondatrice? Je vais aller ici parce que ça va m'aider. Est-ce que les bénéficiaires sont d'autres personnes, d'autres individus, femmes ou hommes? Ou bien est-ce que ce sont des structures, ou parfois c'est les deux, ou des structures de société, c'est-à-dire des hôpitaux, des cliniques, des mosquées, des écoles, et ainsi de suite. Là, je dois dire, je n'en parle pas ici, mais je dois dire que les WAQF ou les fondations chrétiennes, également des fondations juives, sont des piliers de société également pour ce secteur socio-économique, politique de leur communauté. Mais je n'en parle pas ici. Mais ce n'est pas ici, quand on parle de WAQF, ce n'est pas quelque chose qui est seulement musulman, mais c'est toutes les communautés dans l'islam ou dans la grande région majoritairement musulmane qui utilisent cet outil. Donc c'est un outil très très important. Je me suis rendu compte de cela, petite parenthèse, je me suis rendu compte de cela lors de mes études doctorales qui remontent un certain nombre d'années, quand j'ai commencé à travailler dans les archives de Damas, dans les années 80, pour révéler tout ça. Et je ne savais pas que j'allais travailler sur les fondations, j'allais juste travailler sur la société du 19e siècle de Damas. Mais j'ai vu dans les archives que j'ai commencé à étudier que cette structure de fondation WAQF était sur chaque deuxième page. Chaque fois que je tournais la page d'un registre, je voyais que c'était que le WAQF était le centre de ce document-là. Et très rapidement, je me suis rendu compte que c'est vraiment une structure très importante au fonctionnement de cette société. Et donc, je tournais, j'ai centré l'intérêt là-dessus. Alors, pour revenir à ces questions de genre, je reviens ici. C'est un angle, j'ai dit ici que c'est une catégorie d'analyse. Nous savons tous ce que je vais dire quand je dis catégorie d'analyse, que se remonte aux études de John Scott et Judith Butler, mais pas seulement. C'est beaucoup, depuis deux ou trois générations maintenant, parce que les jeunes générations aussi, utilisent le genre comme point d'interrogation pour comprendre, essayer de comprendre un document, essayer de comprendre une société. Pour les fondations pieuses ou les fondations WACF, c'est absolument essentiel. Le droit hanafite, moi je travaille sur le droit hanafite parce que je travaille sur l'époque ottomane du 19e siècle de Damas, surtout un peu avant, un peu après. Mais comme c'est le droit qui encadrait les, pas seulement hanbalites, shafiites, aussi malikites, un petit peu pour Damas, mais c'est le, on dit que c'est le madhhab officiel de l'Empire ottoman. Donc chaque fois on a un document, ou presque chaque fois on a un document, ça peut être n'importe quel madhhab, Shafi'ite, Malikite ou Hanbalite, mais en ce qui concerne peut-être tout le Proche-Orient, l'époque ottomane, il y a presque toujours, 99% du temps, un tampon de l'autorité Hanafite, donc du juge Hanafite, il y a presque toujours. Et ensuite, troisièmement, quelques exemples venant de Damas. J'aurai le temps juste de donner deux. Je reviens à un schéma qui a été publié en 2008, donc il y a déjà 10 ans. Mais je reviens souvent à ce schéma parce que je crois qu'il exemplifie ce que j'ai dit tout à l'heure. En ce qui concerne fondateur, fondatrice, et même si c'est lourd de dire tout le temps fondateur, fondatrice, je le dis à chaque fois. Je le dis à chaque fois, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, il y avait des femmes qui créaient des WACF. » Ben oui, il y en avait beaucoup. Et de tous les secteurs, depuis l'élite jusqu'à la petite propriétaire. Et donc, même si c'est lourd, donc j'insiste dans tous mes travaux, même dans mes emails, hein, je dis fondateur, fondatrice. Et c'est important. Ensuite, ici vous le voyez, ce triangle, fondateur, fondatrice, pouvoir décisionnel. Alors c'est un outil tout à fait individualisé, c'est un outil d'intervention dans toutes les profondeurs de société, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis les décisions prises, qui va gérer cette chose-là, qui va choisir les propriétés qui vont aller en WACF, qui seront les avoirs générateur des revenus, qui va choisir donc les bénéficiaires. Tout ceci, c'est le fondateur, fondatrice qui va choisir ça. Donc c'est un pouvoir décisionnel à plusieurs niveaux. Au niveau économique, c'est-à-dire choix de propriété, mais aussi, je n'ai pas pu le mettre ici, mais vous le voyez dans les articles publiés par des gens qui travaillent là-dessus, on choisit également quelle sorte de contrat peut être utilisé, ou on peut aussi interdire certains contrats dans son fondation. Des contrats qui vont être utilisés pour rentabiliser la propriété. C'est un pouvoir absolument énorme à titre individuel. Mais en même temps, c'est encadré par le droit, c'est encadré par la jurisprudence religieuse, c'est encadré par le droit coutumier, comme on a parlé tout à l'heure. Dans le droit coutumier, dans beaucoup de documents, on dit que selon l'ancien droit ou selon l'ancienne coutume, ou le droit coutumier nous permet tel ou tel de faire telle ou telle chose. Il fait partie de le droit coutumier incorporé, alors dans la documentation, il est incorporé donc dans la structure de la chose. Et c'est aussi, il y a trois niveaux, et c'est aussi le droit de l'État. Là, on a parlé avec les deux dernières communications sur toutes ces complexités de droit, même avant l'époque coloniale. Parce que là, c'était l'époque coloniale. Mais même avant l'époque coloniale, il y avait l'Empire ottoman. Avant eux, il y avait les autres empires. Depuis l'époque, en vérité, depuis l'époque oumayade, donc c'est vraiment le premier empire en islam, nous avons une jurisprudence étatique par rapport à cette chose, le waqf. Donc, la jurisprudence religieuse, la jurisprudence coutumière, jurisprudence étatique. Quand je dis ici, je vais me balader entre mes deux trucs là. Quand je dis ici, gender blind, alors ça c'est absolument essentiel aussi. Alors je m'intéresse beaucoup à ce que Salem a dit tout à l'heure. Pour le 16e siècle, Tunis, tu avais dit que selon le droit malakite, tu avais vu... Comment?
Le droit malakite.
Malakite. Selon le droit malakite, il y avait une certaine tendance à exclure les femmes. On ne voit pas ça dans les pratiques, c'est autre chose. Mais dans la jurisprudence, on ne le voit pas. C'est pour ça quand j'ai dit gender blind, parce qu'on regarde un index où on lit un règlement, un ahkam al-awqaf, on lit un livre de jurisprudence ou de règlement sur les waqf, on ne voit aucune référence aux femmes. C'est-à-dire femmes, hommes, individus, c'est pareil. Les trois choses qui sont essentielles, dans le principe, c'est que la personne soit libre, pas un esclave. Donc c'était, mais même les esclaves ont créé des waqf, mais bon, dans la jurisprudence, il faut être libre de pouvoir disposer de ses biens, qui était le cas d'ailleurs pour les esclaves. Deuxièmement, il fallait que la personne soit libre des dettes, parce que, bien entendu, si on possède une propriété, le premier devoir, c'est rentabiliser ce bien pour payer ses dettes. Donc, il faut être libre de dettes, pas frapper des dettes. Et troisième, adulte, pubère. Bon, ça aussi, il faut discuter. Est-ce que c'est 12 ans, est-ce que c'est 15 ans, parfois. On ne voit pas l'âge. On ne le voit pas là, dans la documentation. Donc souvent, on ne voit pas ça. Mais on voit que cette personne est fille d'eux, fils d'eux. On voit que cette personne est identifiée par sa généalogie, sa filiation immédiate. Parfois, on peut aller jusqu'au deuxième ou troisième génération si la personne est petite fille, ben bien sûr, du sultan, si c'est à ce niveau-là. Mais si la personne est petit enfant, même sur le niveau local, du gouverneur ou Amir al-Hajj, par exemple, ça aussi, c'est quelque chose qu'on trouve dans la documentation à titre identificateur de la personne qui créait le waqf. Donc, le genre est partout. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais quand même donner deux exemples, si tu me permets. Deux exemples. Un exemple, ce n'est pas une charte de fondation, c'est un contrat d'hypothèque qui, a priori, est interdit pour les propriétés qui sont en waqf, mais tout de même, ça existe, au moins pour l'époque ottomane, pour l'époque avant, je ne sais pas. Mais c'est un contrat qui s'appelle Mursad, qui veut dire... Enfin, en réalité, c'est une hypothèque qui est donnée vis-à-vis d'une propriété qui appartient à une fondation. Et l'exemple que je vais donner provient du corpus de Damas, qui sera bientôt, je promets, dans la banque de données qui est gérée par Mohamed Reza. Et donc, c'est un document qui est daté de 1881 et c'est du waqf... une grande waqf d'Ibrahim ibn Uthman Kiwan. C'est une grande waqf. Plein de documents là-dessus. Donc, on peut savoir une partie, au moins. Qu'est-ce qui procédait, ce monsieur Ibrahim Kiwan. Il était choisi par lui à mettre dans sa fondation. Alors, c'est un document qui concerne un prêt, ou une hypothèque, hein, un prêt Mursad, qui était enregistré dans un de ses sept cours, un de ces sept tribunaux, plutôt à Damas, à Sinania. C'est le cours à Sinania, le tribunal à Sinania. Et c'est une femme qui va prêter de l'argent à cette fondation pour faire des réparations sur le toit. Et c'est souvent le cas parce qu'une propriété qui va appartenir à une fondation, au bout de 10 ans, 20 ans, bon, comme toute chose, il faut réparer le mur, il faut réparer les toits. Et alors, la fondation, apparemment, on ne sait pas, n'avait pas assez d'argent dans sa trésorerie pour réparer. Donc, il fallait avoir recours à un prêt. Et donc, c'est une femme. Donc, excusez-moi, je vais aller à la prochaine page. J'arrive. Ce n'est pas mon ordinateur normal. OK. C'est avec le Mazhab Hanafite. Et c'est une femme. On ne connaît pas grand-chose vis-à-vis de cette femme. On voit seulement son nom, Hamida, tout simplement. Il n'y a pas d'autres qualificatifs avec son nom. Il n'y a pas Khanum, il n'y a rien. Il n'y a pas de nom de famille, ce n'est pas quelque chose d'adhère. Parce que souvent, on peut avoir ou Morali, enfin un qualificatif qui montre qu'elle appartient à tel ou tel unité familiale. Il n'a rien. Il n'a que son nom. Et ça, c'est la chose qui m'intéresse parce qu'on peut supposer soit elle est archi connue à l'époque, il ne fallait même pas dire Hamida, tout le monde savait qui c'est. Mais au contraire, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui avait de l'argent et qui voulait investir cet argent parce qu'elle sera remboursée au fur et à mesure avec un système, je ne veux pas dire d'intérêt, mais c'est quelque chose qui s'approche quand même du système d'intérêt parce qu'elle sera remboursée le montant qu'elle avait prêté, mais avec d'autres bénéfices là-dessus. Et donc, si une femme qui n'a pas d'autres qualificatifs, il n'y a que son prénom qui est là, ça veut dire qu'on revient à ce que Fatiha a dit dans sa présentation d'ouverture, que des femmes avaient leur propre argent, ça on le sait, mais elles passaient aussi, il n'y a pas ici un Walia, il n'y a pas de tuteur. Oui, il n'y a pas de tuteur là-dessus. Apparemment, c'est elle-même, est-ce que c'est elle-même qui est allée au tribunal, c'est possible, ou elle avait un représentant. Mais des fois, on le voit, pas d'autres études, on le voit que les femmes, elles vont elles-mêmes. Surtout c'est à un certain âge, bon, il faut socialiser tout cela. Mais au tribunal, nous avons les paroles des femmes qui sont dans le tribunal. La chose qui est importante ici, c'est que cette femme avait de l'argent, elle a prêté de l'argent pour cette fondation, pour réparer le toit, et on ne connaît pas d'autre chose à propos d'elle. On sait, par contre, on a un autre document là-dessus, on sait que la génération suivante, donc c'est ses descendants, étaient toujours dans cette situation où elles étaient créanciers, des créanciers, on leur devait de l'argent, le roi leur devait de l'argent. Et elles recevaient au fur et à mesure, tous les ans, elles recevaient de l'argent en tant qu'unité familiale, enfin, en tant que descendante, qui avait un aïeul qui prêtait de l'argent. C'est intéressant parce que ça transite une génération. Après, on n'a pas de documents, on ne sait pas. Est-ce que ça serait remboursé? Oui. Et alors, ça, je vais juste mettre ça sur le tapis pour en discuter. Alors, mon autre exemple, ça, c'est un exemple en soi. Mon autre exemple, c'est une wakfia. Donc, une wakfia que j'ai étudiée longtemps, mais qui me sert bien quand je parle de genre. C'est une femme en 1880, à Damas également, qui était elle-même femme de... Elle était femme, son mari était l'Emin al-Hajj. Donc, c'est celui qui gérait le pèlerinage à la Mecque à partir de Damas. Donc, il est à partir de l'Égypte, à partir de Damas. Elle était donc son mari. Elle était sa femme. Et alors, dans la charte de fondation, elle est identifiée en tant que telle. Elle est identifiée. Nous avons son nom sur trois générations. Donc, son nom, son prénom, son nom de famille, Al-Murali, un qualificatif, Al-Khanum, donc nous sommes dans un autre statut maintenant de la société, et nous savons qu'elle est fille d'un militaire, parce que le père, il s'appelle Ara, et elle est petite fille d'un un militaire, Ara. Donc, on a deux générations au-delà, on sait avec qui elle se mariait. On a d'autres documents sur sa fondation. J'ai publié ça dans un article il y a un certain nombre d'années. Ce qui est intéressant, c'est que je donne ces deux exemples qui montrent une femme qui a beaucoup de biens, parce qu'il y a 15 propriétés des boutiques, des parties de boutiques, pas des boutiques entières, mais des parties de boutiques qui seront dans cette fondation. Centre-ville ex dans le cœur commercial de la ville. Mais en contrepartie, nous avons l'exemple que j'ai donné précédemment. C'est à discuter tout à l'heure. Et donc pour finir, je vais finir avec... c'est ça. Je reviens. Voilà. Donc je vais finir avec mes trois interrogations qui, depuis longtemps, forme la manière d'attaque de cette chose. Donc, genre comme catégorie d'analyse, le droit hanafite, qui peut être autre chose aussi, un autre droit, mais pour moi, c'est le droit hanafite, vu mon terrain, mais ça peut très bien être autre chose. Mais cet genre, un système de droit, un système codifié par l'appareil religieux, qui est le droit théorique aussi, les fatwas de Dante, les droits théoriques, les règlements de Waqf, mais aussi il y a comme j'ai dit tout à l'heure, des documents, donc des pratiques, des documents qui passent par les tribunaux. Et donc nous avons plusieurs niveaux ici, et les droits d'État. Et troisièmement, des exemples, parce que ce sont des exemples, on a plein d'études là-dessus, des thèses et d'autres choses, mais des exemples qui sont, on peut dire, le réel, bon, le plus réel que possible, ça passe quand même par un scribe, donc il y a tout un système aussi de codification, mais le document, et ensuite vis-à-vis de la théorie, dans la jurisprudence. Et c'est ça que nous allons, dernière chose que je dis, nous allons dans ce sens-là, pour la banque de données que nous constituons, dans l'héritage du programme on a parlé tout à l'heure du GDRI, le groupe de recherche international sur les fondations Waqf. Donc tous les documents que nous avons, je reviens à ce que j'ai dit en premier, sont genrés, il y a du genre dans tout, même lorsqu'il s'agit d'un contrat que j'ai donné tout à l'heure. C'est une femme dans ce cas-là. Bon, c'est difficile de donner un pourcentage, on dit 10% peut-être, 15% qui concerne des femmes. On va savoir ça dans quelques années quand tout est fait. Mais lorsqu'il s'agit que du masculin, dans un contrat, c'est très intéressant en soi également. C'est un élément c'est un élément qui se prête à l'analyse. Je m'arrête là.